Calade.
Ma radio.
Eh bien, il est l'heure d'une nouvelle rubrique Nuances du monde en compagnie de Jeff. Salut.
Salut Mathieu.
Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un ancien 26 février, pardon, le 26 février 1885, qui correspond à la fin de la conférence de Berlin. Alors, la conférence de Berlin, qu'est-ce que c'est ? Ça vous dit peut-être quelque chose dans vos souvenirs de collège ou de lycée. Elle est connue pour être la conférence qui aurait partagé l'Afrique entre les États européens. Et c'est une vulgate qui a quand même la vie dure, et pourtant elle ne rend pas compte de la réalité de ce qui s'est alors négocié. Le partage de l'Afrique, c'est une réalité, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la tragédie qui s'est jouée au milieu des années 1880, à Berlin et ailleurs d'ailleurs, c'est une histoire complexe qui a mis en scène nombre d'acteurs européens et africains, et où rien n'était vraiment joué d'avance. Cette conférence, qui s'est donc tenue à Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, est initiée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, et a principalement pour objectif de réglementer d'abord le commerce en Afrique, notamment dans les bassins du Niger et du Congo, et d'éviter les conflits entre puissances européennes. Il y a 14 nations qui participent à cette conférence, dont les plus puissantes qui sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Belgique.
Donc le premier objectif de la conférence, c'était de réguler le commerce entre les puissances européennes en Afrique.
Effectivement, hein, car dès les années 1880, les Européens ont déjà établi des comptoirs commerciaux en Afrique, mais l'intérieur du continent reste peu exploré. Les tensions entre les différentes puissances, notamment dans le bassin du Congo, menacent de dégénérer en conflit vraiment militaire. La conférence de Berlin est donc organisée pour réguler les pratiques commerciales et assurer la libre navigation sur les fleuves africains. Le préambule de l'acte général de la conférence met en avant des intentions humanitaires telles que la suppression de l'esclavage et la diffusion de la civilisation européenne. Bon, on va voir que ça va quand même pas être très humain tout cela, mais on y reviendra. De plus, les Européens considèrent l'Afrique comme un territoire exploité pour des ressources naturelles, alimentant ainsi leur expansion industrielle et commerciale. Le caoutchouc, l'or, les diamants et d'autres matières premières sont particulièrement prisés par les puissances impérialistes. La conférence vise donc à établir des règles permettant aux puissances coloniales d'assurer leur suprématie commerciale et politique sans se heurter les unes aux autres. Un exemple frappant de cette exploitation est le cas de l'État indépendant du Congo, administré directement par le roi des Belges, Léopold II. Ce territoire devient rapidement le théâtre d'exactions terribles, avec des millions de Congolais contraints à travailler dans des conditions vraiment inhumaines pour l'extraction de caoutchouc. Les mutilations et les exécutions sommaires sont courantes, provoquant l'un des premiers scandales humanitaires internationaux du XXe siècle. Donc on est vraiment très loin des conditions vraiment humanistes.
Ok, et cette conférence voit également émerger une logique territoriale.
Oui, officiellement, la conférence ne porte que sur les côtes africaines, mais une clause essentielle stipule que seules les puissances exerçant un contrôle effectif peuvent revendiquer un territoire. Cette disposition ouvre la porte à une course à l'occupation du continent par les Européens. L'exemple le plus marquant est la reconnaissance de l'Association internationale du Congo, du roi donc Léopold II de Belgique, comme on a déjà dit, ce qui aboutit à la création de l'État indépendant du Congo, un territoire soumis à une exploitation brutale, comme on l'a vu, et systématique par la Belgique du Congo. De plus, bien que la conférence ne procède pas à un partage direct de l'Afrique, elle marque quand même le début d'une logique territoriale qui accélère la colonisation. Car dans les décennies suivantes, les puissances européennes signent de nombreux traités avec les chefs africains, souvent dans des conditions ambiguës, afin de justifier leurs revendications territoriales. Cette dynamique accroît les tensions entre les puissances coloniales et contribue à l'imposition de nouvelles frontières qui sont construites de manière totalement arbitraire et ne tiennent compte d'aucune réalité ethnique et culturelle locale. En réalité, ces frontières sont tracées selon les intérêts purement stratégiques, découpant parfois des groupes ethniques et des royaumes existants. Un exemple vraiment emblématique, c'est la division de la région des Grands Lacs africains entre plusieurs coloniales. Ce qui provoque d'ailleurs des tensions qui persistent encore aujourd'hui, notamment, on le voit actuellement, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
D'accord. Et alors, quel rôle jouent les acteurs africains dans cette conférence de Berlin ? Est-ce qu'ils ont un rôle déjà ?
Non, alors déjà, non, leur présence est totalement exclue des négociations. Ouais. Ils ne sont pas présents à Berlin. Néanmoins, ils ne sont pas non plus de simples victimes passives. En effet, certains souverains africains signent des traités dans l'espoir d'obtenir une protection ou alors un avantage sur leurs rivaux locaux. Toutefois, la plupart ne mesurent pas les conséquences de ces accords qui mènent à la colonisation effective de leur territoire. D'autres résistent à la domination européenne, comme les Zoulous par exemple, qui infligent une lourde défaite aux Britanniques à Isandlwana en 1179. Mais la supériorité militaire et logistique des Européens finit par leur assurer la victoire. Certaines sociétés africaines tentent néanmoins de s'adapter en coopérant avec les Européens pour préserver un minimum d'autonomie. Mais ces efforts sont souvent vains face à la supériorité militaire et organisationnelle des puissances coloniales. Les différentes formes de résistance, qu'elles soient diplomatiques ou armées, n'empêchent cependant pas la progression de la colonisation européenne sur l'ensemble du continent. Un exemple significatif de cette coopération forcée est... et celle du roi Benazine de Dahomey, qui tente de négocier avec les Français, mais qui finit par être capturé et exilé en 1894.
Alors, donc, pour finir, on peut dire que, bien que cette conférence n'ait pas abouti au partage de l'Afrique, elle a néanmoins enclenché le processus.
Ouais, effectivement, hein, la conférence de Berlin, elle n'a pas été celle du partage de l'Afrique, qu'on décrit bien trop souvent, mais sa logique était avant tout commerciale, et aucune possession territoriale n'y a été alors décidée. Mais finalement, en autorisant l'implantation au bénéfice personnel du roi des Belges de l'État indépendant du Congo, elle ouvrait la voie à des exactions qui pèseraient lourd dans l'avenir du continent. Les principes de libre commerce qui ont été posés ont été largement ignorés dans les années suivantes. Bien au contraire, la poursuite d'intérêts privés soutenus par des gouvernements européens a indirectement contribué à une inflation de signatures de traités entre puissances européennes et africaines dans la course aux colonies des années 1880-90. Même si ce n'était pas l'objectif délibéré des diplomates réunis à Berlin, cette logique allait conduire, dans les 30 ans à venir, à l'exploitation systématique du continent par les Européens.
Ok, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur...
Qui durent encore aujourd'hui, ouais, tout à fait, voilà, effectivement.
Ces pays africains. Merci beaucoup, Jeff, pour cette rubrique. À bientôt.
À bientôt. Calade, ma radio.